de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Vous êtes organiste et professeur des structures. Aujourd'hui, vous jouez souvent dans des concerts. Avez-vous des anecdotes à nous raconter ?
C'est un bonheur extraordinaire, un concert. Un des tout premiers concerts que j'ai fait en Italie, il y a un certain nombre d'années, je me souviens, je jouais sur un orgue de fabrication anglaise d'ailleurs, entièrement mécanique, et qui n'avait pas été très bien réglé avant le concert. Et au milieu de la fugue en la mineur de Bach, le ré central du grand orgue s'est bloqué. On appelle ça un cornement. Alors sur un piano, vous voyez, c'est l'équivalent de casser une corde, sauf que quand vous cassez la corde sur le piano, la note ne marche plus. Sur l'orgue, c'est le contraire. La note reste bloquée en permanence, ce qui est très gênant dans un grand plein jeu. Il a fallu que j'arrête. Donc ils sont venus, ils ont réparé l'instrument pendant le concert, ça a pris un quart d'heure. Mais l'anecdote, elle n'est pas tellement là. Elle est que le soir, je suis arrivé à l'hôtel et j'avais dans ma chambre un message du directeur du conservatoire voisin, qui était le conservatoire de Modène. Et je n'ai jamais reçu une lettre comme ça en italien, et vous n'avez pas besoin de la traduction, je vais vous donner le début de la lettre. Gentilissimo maestro Gurina, mi scuso, perché l'estrumento non sta regolato. Parce que l'instrument n'était pas réglé. Et alors il s'est confondu en excuses, j'ai trouvé ça très, très gentil, et je lui ai répondu dans mon italien très approximatif, mais je pense qu'il a compris que je lui disais un seul mot, grazie.
Parfois les organistes improvisent sur des cornements, ça arrive
oui,
très souvent.
Oui, Jean-Alain a même écrit une pièce là-dessus, il a écrit une berceuse sur deux notes qui cornent.
Vous connaissez aussi des anecdotes avec André Isoard, pouvez-vous nous en faire part ?
Merci.
C'est un organiste aussi très célèbre.
Écoutez, merci de me donner l'occasion de parler d'André Isoard, qui était un organiste fabuleux. D'ailleurs, je ne devrais pas en parler au passé, parce qu'il nous accompagne toujours dans les concerts. J'ai eu la chance de lui faire ses registrations et de lui tourner les pages. Et je peux vous donner une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. Il jouait avec un soliste qui jouait du hautbois et du cor anglais, qui avait un petit peu la trouille, il faut dire les choses. Et ce qui est très gênant quand on a un instrument avant, parce que ça peut couper le souffle. Et André a attrapé ses instruments, il les a mis sur l'épaule, et il a dit « arme sur l'épaule, droite !» dans la sacristie, et il a commencé à amuser tout le monde, et ça a énormément détendu l'atmosphère, et ça a fait beaucoup de bien. Alors c'était un homme extraordinaire, je n'ai pas eu le privilège de l'avoir en cours, je l'ai seulement assisté pour des concerts. Tous les gens qui l'ont eu comme prof racontent des anecdotes fabuleuses. Je peux vous en dire une, par exemple, quand il travaillait les sonates en trio, qui sont quand même pas les choses les plus faciles, et que les lèvres ralentissaient un peu ou appuyaient un petit peu trop, il leur disait « pas d'accent suisse ». Une autre que je peux vous donner. Il avait été invité à Paris à jouer dans un instrument néoclassique. Alors il était très baroque, André Isoard, il aimait bien les instruments authentiques. L'instrument néoclassique est un instrument qui marie un peu tous les styles, et il était assez opposé à ça. L'organiste titulaire lui avait traditionnellement fait l'interview après le concert, et comme il craignait qu'il n'aime pas beaucoup son instrument, il lui a demandé « qu'est-ce que vous avez apprécié le mieux dans cet instrument ?» Et André a répondu « le chauffage ». C'était pour dire qu'il n'aimait pas tellement cet instrument-là, voilà, qui n'avait pour lui pas de caractère. Des anecdotes avec André, il y en a plein, parce que c'était un homme plein d'humour et plein d'humanité.
Vous avez aussi une anecdote avec un Steinway.
Oui, alors effectivement, aux États-Unis, j'étais invité à côté de la cathédrale. Il y a une petite paroisse qui m'a invité à faire un concert où ils n'avaient pas de vrai orgue. Ils avaient un orgue Allen, un orgue numérique de très grande qualité quand même. Mais pendant le concert, dans le miroir, j'ai vu qu'il y avait c'était pas tout à fait un Steinway, mais vu de loin, c'est un Boston. Quand j'ai vu cet instrument, j'ai demandé la dernière fugue du concert. Je l'ai joué en bas sur le piano. Je n'ai pas pu résister à l'appel d'un vrai piano à queue par rapport à un orgue numérique. Qu'est-ce que vous voulez, le dernier morceau, je l'ai joué en bas.
Vous voulez nous faire écouter l'adagio de Marcello ?
Oui.
Pourquoi, effectivement ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a d'abord le lien avec les instruments solistes. On parlait tout à l'heure du hoboïste qui jouait avec André Isoard. Cet adagio était extraordinaire par sa nostalgie. Il a été copié par Johann Sebastian Bach. Il a admiré cet adagio, il l'a retranscrit de sa main. C'est un des sommets de la contemplation méditative au hautbois. Thank you.
les partitions tombent parfois quand on joue en concert, on tourne la page,
oui,
plouf, tout tombe.
Alors, j'ai le souvenir d'une organiste japonaise, elle voulait absolument tourner les pages elle-même. Et alors, elle avait une partition très épaisse qui était un véritable bouquin. Et au moment de tourner les pages, c'était allé un peu vite. Et la page a glissé du pupitre, est tombée sur le quatrième clavier et a fait un cluster. Mais alors, magnifique, on va dire 15 notes qui parlaient en même temps. Ça faisait de la musique très contemporaine.
Vous voulez nous faire écouter ce concerto pour orgue de Roger Calmel ?
Oui. Alors, effectivement, et j'ai eu la chance d'assister à la création. En France, il a été créé par Pierre Cochereau, à Notre-Dame de Paris. Mais dans l'Est de la France, en Alsace, c'est Maurice Merlen qui l'a créé avec l'orchestre du conservatoire. Et j'ai eu la chance, là aussi, j'avais 16 ans, de le registrer et de lui tourner les pages. C'est une musique qui part sur les clusters et qui va vers les chorales du Moyen-Âge. C'est vraiment une musique qui, à mon avis, n'est pas assez entendue.
L'orgue est une machinerie énorme, on a besoin d'un tourneur de page, d'un tireur, plus d'un souffleur.
Oui.
Donc tout ce monde pour un gros instrument.
Mais oui, mais c'est comme un avion. Si vous voulez l'avion, il faut des gens pour le concevoir, pour le certifier, pour l'opérer, pour le guider, etc. Mais après, il n'y a qu'un seul commandant de bord quand même.
Oui, c'est l'organiste,
voilà,
bien évidemment.
Voilà. Mais sans tout cet environnement, il ne pourrait rien. C'est une leçon de la vie, effectivement.
Et l'organiste est tellement humain. Parfois, il a des tristesses ou il a des émotions qu'il ne peut pas forcément contrôler.
Alors là, malheureusement, je peux en parler de manière assez... Et là, vous me donnez un petit peu d'émotion, mais on est des êtres humains. J'ai joué le grand choral que Liszt a écrit à la fin de ses variations Weinenklagen quand il a perdu sa fille. Et il se trouve que je venais d'avoir un deuil très proche dans ma famille à ce moment-là. En jouant ce choral, Was Gott tut, das ist voll getan, je me suis senti tout d'un coup, c'est un grand choral quand même assez compliqué, mais très très intéressant harmoniquement, et je me suis trouvé submergé par l'émotion. Et il y avait une personne dans la tribune, à 3 mètres, qui m'a vu pleurer, littéralement pleurer, mais vraiment avec des larmes qui ont coulé. Et j'ai pas honte de le dire. Vous savez, il y a un proverbe dans le Talmud qui dit « Un homme qui pleure est un homme véritable ».
Les tribunes permettent aussi d'avoir le public qui monte à la tribune en même temps que l'organiste.
À la cathédrale de Brême, là où le Brahms a créé son requiem, effectivement, j'ai joué sur 3 des instruments de la cathédrale. Le dernier, c'est le Walker 98 jeux. Il y a 150 places dans la tribune et nous avions à peu près 120 personnes dans le public, ce qui n'est pas énorme. J'ai dit, pour les derniers morceaux, vous allez monter avec moi. Et ils étaient absolument ravis de voir la technique sur ce très grand instrument. Ils étaient à côté de moi. Et alors à tel point que c'est une anecdote assez amusante, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai fait 7 bis à la fin du concert, parce que les gens étaient fascinés de voir la technique de près.
Il y a aussi, justement, pour être en contact avec ce public, quand on fait des concerts, il y a la mise en place aussi de vidéos qui est transmise, effectivement, à la nef.
Alors, il ne faut pas que ce soit le gadget, il faut que ce soit pédagogique, il faut que ce soit associé avec une explication. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'adore faire ça. C'est-à-dire que, ben, vous savez, dans une autre vie, je suis professeur des universités. Donc oui, j'adore effectivement expliquer comment fonctionne l'instrument, montrer le pédalier en vrai, etc. etc.
Oh, même s'il y a un cluster, la partition qui tombe, la note qui
corne,
c'est l'authenticité, tout ça, on le voit quand même.
On le voit et c'est l'authenticité. Vous savez, puisqu'on parle d'André Izoard, je vais vous dire, tiens, il est arrivé un incident avec lui qui est tout à fait étonnant. Sur les grands instruments, c'est compliqué parce qu'il faut être vraiment sûr des jeux qu'on a tirés et pas tirés. Et comme il n'y a pas deux instruments qui se ressemblent, c'est pas facile. Il a commencé à jouer un grand prélude et fugue de Bach. Il manquait un certain nombre de jeux. Il n'a pas hésité à s'arrêter. Et il a repris en rajoutant les jeux qui vont bien. On a droit à l'erreur. Si vous voulez, la différence entre l'erreur et la faute, c'est que l'erreur, c'est quand on la reconnaît, qu'on s'est trompé de quelque chose, il y a quelque chose qui, voilà, la partition qui tombe sur le clavier, ben, c'est le prix des aléas du direct. Mais on ne triche pas en concert, c'est ça qui est extraordinaire. Donc on a le contact humain direct, oui.
Merci Yves, vraiment, pour cette communication sur les anecdotes qui sont finalement très humaines dans nos concerts, qui nous amènent beaucoup de rencontres.
Merci Blandine, mais je crois que dans la vie en général, le plus important, c'est le côté humain des choses.
À bientôt.
À bientôt Blandine.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.